Salut, c'est Juliana Léveillé-Trudel. Je vous présente En Fabulation, un balado tiré du spectacle du même nom présenté à Montréal depuis 2017. Notre concept est simple. Chaque invité raconte une histoire vraie qui lui est arrivée, sans notes, ni costumes, ni accessoires. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Nos fantômes, un récit de l'écrivaine Mali Navia. Bonne écoute!
Donc, on est au mois de mars 2022 et je reçois un appel de ma mère qui me dit « Mali, c'est papy. Écoute, il lui reste plus beaucoup de temps. Vous devriez venir au CHSLD demain. » Cet appel-là n'est pas une surprise. Mon grand-père n'est pas malade, mais il s'affaiblit depuis longtemps. Ça me prend au cœur quand même. Le lendemain, je me rends au CHSLD avec mon chum. Je me demande comment ça va être. On est en pandémie. Il y a des mesures de santé publique encore en vigueur. On n'a pas le droit d'être plus que trois dans la même pièce. Il faut porter un masque en tout temps. Je planifie déjà de rien suivre de ça parce qu'il n'y a rien qui va m'empêcher de serrer mes grands-parents dans mes bras aujourd'hui. La dernière fois que j'ai perdu quelqu'un, c'était mon père. Ça fait déjà 12 ans de ça. Et c'est arrivé soudainement. Quelque part en Colombie, on lui a enlevé la vie. On ne sait pas, je ne saurai jamais qui a fait ça, ni pourquoi, ni comment. J'ai jamais vu son corps. Et je ne me souviens pas de la dernière chose que je lui ai dite. Ça fait que c'est peut-être la dernière fois que je vais voir mon grand-père aujourd'hui, mais je trouve un réconfort étrange à penser que je vais pouvoir lui dire adieu comme il faut. Il faut dire aussi que j'ai toujours été obsédée par la mort. Vraiment, ça me fait peur. Toute ma petite enfance, j'ai pensé à celle de mes parents, surtout à celle de mon père, comme si je la sentais un peu planer au-dessus de nous. Je me suis réveillée des centaines de fois de cauchemars, en larmes dans mon lit. Ça fait que quand c'est arrivé pour vrai, ça m'a cassée. Ça m'a cassée parce que j'ai cru que tout était prémonitoire. Et depuis ce temps-là, ma peur est puissance mille. C'est la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui, pour essayer d'apprivoiser la mort. Grosse mission. Et donc, j'arrive à l'étage du CHSLD où mon grand-père est. Et j'entends des voix, beaucoup de voix. Je vois dans sa chambre que toute ma famille est là. Je dis bien toute ma famille. Il y a ma mère, mon beau-père, ma grand-mère, mes trois tantes avec mes trois oncles, mes quatre cousines, ma sœur, leur chum et les cinq arrière-petits-enfants. Les masques ont pris le bord, ça déborde dans les couloirs. Et il y a mon grand-père au centre de la pièce, assis à nous regarder vivre. J'entre. Il me voit. Son visage s'illumine et je comprends que le sourire qu'il me fait est pas juste pour moi. Ma grand-mère lui a sûrement partagé la nouvelle. J'ai la dernière de sa lignée dans mon ventre. Donc je le serre dans mes bras. Je lui dis que je l'aime. Je dis que je me souviens pas de la dernière chose que j'ai dite à mon père, mais c'est sûrement ça. Je t'aime. Ma mère m'a appris assez jeune à dire je t'aime à tous les moments qui se terminent. Je vais chercher du lait, je vais à l'école, je t'aime. Je le dis au cas où je reviendrai pas. Je le dis au cas où ce serait mes derniers mots. Ça a l'air très anxiogène comme habitude de vie, ce lait. Mais ça vient aussi avec une certitude apaisante. C'est le tour de mon chum, Alex, d'approcher mon grand-père. Mon grand-père le regarde, il lui prend les mains, il le regarde droit dans les yeux et dit « merci ». C'est un merci qui veut dire « je te passe la poque ». merci de prendre soin de ma petite fille, de mon arrière-petite fille. Merci de les aimer, de veiller sur elles. La réunion familiale se poursuit. C'est pas triste. L'atmosphère est légère. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas rassemblés qu'on est content d'être là. Même si c'est pour dire au revoir à un de nos piliers. On se serre dans nos bras, on fait des mises à jour sur nos vies. Les employés du CHSLD nous laissent faire. Puis honnêtement, on en a de besoin. On en a de besoin parce que les 8 mois qui ont passé là ont été l'enfer. Pas à cause des soins, pas à cause du personnel, mais à cause des confinements après confinement après confinement, même pour ce qui a été son dernier Noël. Faut pas que je pense à ça. Faut que je me concentre sur le fait que on est en train de le laisser avoir une mort à la hauteur de sa vie. Papy était un homme rassembleur, the life of the party, et à l'aube de la mort, c'est encore ça. Tranquillement, il se fatigue, donc on quitte le CHSLD en petit comité. On va au restaurant, je mange une pizza, je partage une poutine avec ma mère. La vie continue et c'est bizarre. Personne n'a encore pleuré. Le lendemain, ma mère me rappelle. Elle me dit que mon grand-père passera pas la nuit et m'invite à revenir au CHSLD. J'embarque dans mon auto, j'arrive à sa chambre et il y a un prêtre en train de faire son dernier sermon. J'éclate en sanglots. L'ambiance est autre. Dans la pièce, il y a ma tante Sylvie, ma mère Nicole, ma cousine Julie et bien sûr ma grand-mère Germaine. Mon cœur se serre quand je pense à ma grand-mère. Je m'approche de mon grand-père, qui est en train de dormir, mais pas paisiblement. Je le vois qui s'accroche à la vie, même si la vie l'a déserté. Je le sais pourquoi. Il veut pas nous laisser derrière. Surtout pas ma grand-mère. Fait que je m'approche, je dépose un baiser sur son front. Puis je lui dis, c'est correct, papy. Ça va aller. On est correct. Tu peux te laisser partir. Le lendemain, à mon réveil, ça prend pas de temps que je vois les messages sur mon cellulaire et on me dit qu'il est mort pendant la nuit, entouré de ma cousine Julie et de ma grand-mère. C'est probablement pas là qu'il aurait voulu mourir. Il voulait probablement être dans leur maison de Drummondville, maison qu'il a construite lui-même, et où sont tous mes plus beaux souvenirs d'enfance. Des soirées dans le sous-sol à jouer au Nintendo et à demander « Papy, est-ce que tu peux me faire le truc des 100 vies à Mario Bros? » Et les lendemains matins, sous le regard amusé de ma grand-mère, qui trouve ça pas mal drôle de voir son mari retraité jouer à des jeux vidéo jusqu'à 1h du matin avec ses petites filles. Pour moi, ces souvenirs-là vont toujours avoir une odeur de pop-corn et de tartine au caramel. Quelques semaines plus tard, c'est les funérailles. Et ma grand-mère nous remet à chacune une urne argentée. Je décide de la placer dans la chambre de ma fille Lassa, juste à côté d'une boîte que mon père m'a donnée quand j'étais petite. C'est mon père qui l'avait fabriquée. J'imagine que ce sont des horcruxes, mais pas le type maléfique, pour les fans d'Harry Potter qui catchent ma référence. Ce sont des objets qui renferment une partie de l'âme de quelqu'un qui nous a aimés. J'imagine que qui vont être ces fantômes, comme ils sont les miens. La mort de mon grand-père a réparé quelque chose. La fin de sa vie n'a pas été facile. La pandémie nous a pris, nous a volé ces dernières années, en fait. Mais quand je pense à ces derniers jours, ça m'a prouvé qu'on peut mourir dans le beau, dans la lumière, qu'une mort n'a pas besoin d'être violente ni traumatique et qu'on peut mourir entouré des gens qui ont donné un sens à notre vie. Ça fait que moi, étant mère aujourd'hui, la maternité a changé mon rapport à tout, y compris à la mort. Je disais que c'est mon obsession. Eh bien, avant, j'obsédais sur la mort des autres. Maintenant, j'obsède sur la mienne. Tout le temps. J'obsède à l'idée que je pourrais priver ma fille de sa mère. Donc, je pense à mon legs. Là, je pense à mon père. Et je pense au fait qu'il a tout donné, mais qu'il est mort seul, puis ça me déchire. Après, je pense à mon grand-père, à ce qu'il a mis dans l'univers avec ma grand-mère, à ce qu'ils ont bâti, et à sa mort, puis ça me console. Parce que tant qu'à me projeter dans la mort tout le temps, maintenant, je me scénarise une fin comme celle de mon grand-père. Je m'imagine avec Alex, on est vieux, on s'aime encore plus que maintenant. Puis il m'accompagne, il me tient par la main quand je suis en train de pousser mon dernier soupir. Il me dit, c'est correct mon amour, tu peux te laisser partir, merci pour la plus belle vie du monde. Nos enfants sont autour de nous, dans une pièce remplie de fantômes et de tartines et de souvenirs qui sentent le pop-corn et les tartines au caramel.
L'histoire que vous venez d'entendre a été écrite et interprétée par Mali Navia. Elle a été enregistrée au Centre Phi le 9 décembre 2023 lors de la présentation de notre spectacle Histoire de famille. La prise de son a été effectuée par Simon Charon. Le montage et la musique originale sont de Christian Brundelré. Et ce balado est une création des Productions de Brousse.